Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de l'ARTBF. Aujourd'hui, on va parler du manque criant d'infirmiers et d'infirmières en Belgique. Il en manquerait entre 20 et 30 000. Sur le terrain, dans nos hôpitaux, les choses ne semblent pas s'améliorer. Le personnel soignant est épuisé. Aux soins intensifs, c'est même un infirmier sur deux qui aurait l'intention de quitter le métier. Résultat, au moins 2500 lits sont fermés en Belgique par manque de personnel. Ce sont les patients qui sont les premières victimes de cette pénurie. Alors nos hôpitaux peuvent-ils encore garantir la qualité des soins? Nous verrons qu'ils sont en tout cas prêts à tout pour recruter des infirmières, même à l'étranger, via des agences plutôt douteuses. Quelles solutions trouver à l'avenir? Comment redonner goût à la profession? On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais on accueille d'abord Sophie Merguen. Vous avez réalisé cette enquête au printemps 2022. Est-ce que ça a été difficile d'entrer dans les hôpitaux pour parler de cette pénurie plutôt inquiétante?
Alors, je pense que 9 fois sur 10, les journalistes qui viennent ici vous expliquent qu'ils se sont pris des murs, que toutes les portes étaient fermées. Pour moi, c'est assez étonnant, mais ça a été plutôt le contraire. C'est-à-dire que quand j'ai passé mes premiers coups de fil auprès des directions d'hôpitaux, on nous ouvrait tout de suite toutes les portes. Et je pense que c'est assez révélateur. C'est comme si on avait voulu contenir une frustration pendant des années derrière la porte d'un placard et que tout d'un coup, cette porte lâchait et que toute cette colère pouvait enfin s'évacuer. Ce qui est aussi assez parlant, c'est que à la fois les infirmiers et leur direction dénonçait la même situation. C'est assez rare. Par contre, une fois qu'on a été un cran plus loin et qu'on a montré qu'il y avait des abus, notamment en termes de recrutement, que les infirmiers étrangers étaient parfois exploités, là, on a senti évidemment tout d'un coup les portes se fermer. On a senti que les hôpitaux ne s'attendaient pas forcément à devoir briser tout cet tabou et c'est devenu évidemment un peu plus compliqué.
Pénurie d'infirmières, des vies en danger, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Sophie Merguen, Guillaume Volner et Amaury Boucher.
Monsieur était au téléphone.
Ouais.
Il s'est un peu énervé, on n'en dira pas plus et il a ressenti une oppression thoracique.
En débutant cette enquête, je veux d'abord comprendre, m'immerger dans la réalité d'un hôpital en sous-effectif. Je décide de commencer par le point névralgique, le carrefour de toutes les pathologies, de toute l'agitation d'un hôpital.
Tout le monde est prêt ?
Non, une seconde.
Vous prenez quoi, les deux ?
Tout.
Ok, ça va.
Ok, je suis prête.
Tout le monde est prêt ?
Ouais.
1, 2, 3.
Me voilà au cœur des urgences d'Erasme, le plus grand hôpital de Bruxelles. Ici, ça court dans tous les sens. Il manque 12 infirmières sur 42, c'est un tiers du service.
Le problème, en fait, c'est qu'on a coup sur coup plusieurs urgences qui arrivent en même temps. Donc pour pouvoir les prendre en charge correctement, ben, il faut des infirmières pour chaque malade, sinon on n'y arrive pas. Et donc là, on a demandé de l'aide maintenant pour qu'une des infirmières des soins intensifs vienne nous donner un coup de main.
Moi, j'ai pas la possibilité de dire stop. Je mets un haut là, c'est... On est fermé ou on est complet comme dans un hôtel, ça c'est pas possible. Vos patients ils arrivent, ils continuent à arriver, il faut continuer à les accueillir et le faire dans la dignité humaine. Donc oui.
Et là on n'est parfois plus dans la dignité.
On n'est plus dans la dignité.
Le ton est donné et par l'infirmière en chef elle-même, Fouzia Chihi. Elle travaille aux urgences depuis 20 ans, mais jamais elle n'a connu une telle situation.
On sait qu'au niveau européen, c'est une infirmière pour 8 patients et on en est à 10, 12, 14, parfois j'ose même pas dire combien.
On peut installer quelqu'un. Ah, il n'y a plus de maître.
Tatiana, c'est toi qui es allée chez la dame du 7. Hein.
C'est moi qui ai passé le pot qu'il est en cours.
Il est en cours. Elle est venue ici aujourd'hui parce que douleur hanche plus. Mais donc néo avec méta osseuse plus. Ici, je suis avec la gestionnaire des lits pour voir effectivement les patients qui sont pris en charge pour essayer de libérer, désengorger les urgences, pour installer les autres cas qui sont en attente en salle d'attente.
Très vite, je me rends compte qu'ici, c'est branle-bas de combat au quotidien. Pas assez d'infirmiers, pas assez de lits, alors que les patients affluent. Fouzia va alors m'emmener vers une grande porte automatique. Derrière cette porte, un autre couloir. Le contraste est saisissant. Là, les lumières sont éteintes, plus d'agitation, c'est le calme plat. Je me retrouve en fait dans une autre aile des urgences, une aile complètement vide. Ici, tous les lits sont condamnés, faute de personnel.
C'est vraiment à contre-cœur qu'on on laisse des salles complètement vides. Au détriment de nos patients, parce que du coup, on concentre l'activité sur une partie du service. Les gens sont plus dans des lits confortables, mais par contre sur des brancards. Et donc, c'est plus compliqué.
De jour en jour, je réalise que ce scénario se répète dans presque tous les hôpitaux et que ça a des conséquences. Plus le personnel manque, plus des lits sont condamnés, plus les services restants sont surchargés et le temps d'attente s'allonge pour les patients.
Pour rentrer dans l'hôpital, j'étais obligée de passer 13 heures, presque 14 aux urgences parce qu'ils ne savent pas vous monter plus tôt. Donc, par exemple, vous arrivez à 10h30 du matin, je suis montée à 2h du matin. Du jour d'après, c'est carrément un chemin de croix. Hein. Et j'ai déjà fait d'autres séjours et je me dis, c'est chaque fois pire. Quoi.
Alors, la qualité des soins est-elle en péril? Pour le vérifier, je décide de passer une nuit entière avec une infirmière. 12 heures d'affilée dans un service de médecine interne de la clinique Saint-Pierre, à Otigny.
Coucou tout le monde. C'est moi chez vous ce soir.
Ce soir, Christine devra gérer seule 25 patients dans un service qu'elle ne connaît même pas, puisqu'elle remplace un collègue absent.
Tu m'as dit que c'est toutes les 6 heures.
Oui,
moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je te pose des questions. C'est pas... On ne fait pas ça dans mon service. Donc...
Faute 3, les deux, monsieur Barr, 87 ans, cellulite membre inférieur gauche, septicémie à staph, qui est une grosse, grosse aide, monsieur.
Très vite, je réalise que Christine est noyée. Les sonnettes restent parfois 30 minutes sans réponse.
Je pense que c'est surtout le... la surcharge de travail qui fait que ça désorganise un peu tout. Le 4x4 ?
Les urgences appellent pour lui transférer un patient.
Bonjour.
Il devra patienter.
Est-ce que c'est possible de le faire après ? Je vous appelle. Ça va ? Merci. Je vais aller m'occuper de la deuxième urgence et il y a une troisième urgence qui arrivera tout à l'heure. Maman 11, elle sonne pour qu'on la change. Mais comme elle est en isolement, on la fera après. Vous êtes claustrophobe, madame. C'est pour ça que vous avez du mal avec la machine. Essayez de vous détendre. Vous avez l'impression d'étouffer quand vous avez le masque sur vous. Essayez de vous laisser aller. Laissez votre respiration se faire porter par la machine.
Manifestement, cette dame est en panique et aurait besoin d'être accompagnée plus longtemps. Ce ne sera pas le cas.
Ce serait l'idéal, parce que c'est vraiment ce dont elle a besoin. Hein. Je crois quelqu'un qui soit là à côté d'elle, qui lui tienne la main pour la soutenir, ça l'aiderait à garder certainement ça plus longtemps, mais malheureusement, c'est pas possible. Parce que j'ai encore au moins 5 patients à voir. Ça va faire 4 heures qu'ils n'ont pas été vus, donc c'est le travail.
Plus la sonnette qui sonne.
Voilà. Et l'urgence qui doit arriver. Les urgences m'ont déjà appelé 2 fois, donc voilà, tout ça.
Je repose alors ma question. La qualité des soins est-elle en péril ? Plus le temps passe, plus la réponse s'impose clairement.
Souvent, on n'est plus le soignant qu'on voudrait être. Ma hantise, moi, c'est de perdre mon humanité. Et de traiter les gens plus comme des personnes, comme des morceaux de chair, de travailler à la chaîne.
Mais au-delà de cette perte d'humanité, le manque de personnel a-t-il des conséquences graves sur les patients? Provoque-t-il des erreurs, des décès qui pourraient être évités? Des dizaines de témoignages me parviennent. Ils attestent que oui. Rares sont ceux qui osent en parler ouvertement. Mais Younes accepte de briser le tabou sous couvert d'anonymat. Il est infirmier aux soins intensifs dans un grand hôpital bruxellois. Ce soir-là, l'état de plusieurs patients se dégrade simultanément, mais Younes et ses collègues ne sont qu'à 3. Chacun est occupé sur un cas très lourd. Personne ne voit que dans une autre chambre, un patient agonise.
Le patient a dû faire un mouvement de tête qui a fait qu'il a arraché un morceau du respirateur et donc qu'il s'est déconnecté. Et en fait, ce patient, on n'a pas vu qu'il s'était déconnecté, tout simplement parce qu'on était déjà tous occupés sur 3 situations dramatiques. Donc, quand on a eu 2 minutes et qu'on a pu sortir d'une chambre, on s'est rendu compte qu'il y avait un drame dans l'autre chambre. La mort qu'il a eue, elle devait être très, très pénible. Ouais. Il a dû agoniser pendant de nombreuses minutes.
Ce patient était pourtant en voie de guérison. Il n'avait qu'une 50aine d'années.
Et c'est clair que, après ce genre de situation, quand on arrive au vestiaire, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, mais je crois qu'à chose, ce qui se passe le plus, c'est terminé pour moi. J'arrête ce métier. C'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça où on nous donne tellement peu de moyens que finalement des patients décèdent.
La pénurie d'infirmiers a donc des conséquences funestes, prouvées par les études scientifiques. Chaque patient ajouté à une infirmière augmente le risque de mortalité de 7%. Alors pour tenter de freiner cette pénurie, les hôpitaux sont prêts à tout. Et certains l'ont bien compris, ils en ont même créé un business.
Bonjour, Bandar.
Bonjour, Boutella.
Tu vas bien ?
Ça va, pas trop,
oui.
Tu vas ?
Ça va, ça va.
Me voilà dans des bureaux flambant neufs à Tour et Taxi. Bienvenue à l'agence Nexus. Ici, ne dites pas agence d'intérim, mais boîte de consultance.
Tu as déjà des nouvelles pour ma nouvelle mission après mes vacances ?
On est en train de voir éventuellement pour joliment. Après, comme toujours, s'il y a plusieurs choix, tu peux choisir.
Cette boîte engage des infirmières en contrat à durée indéterminée et vend leurs services aux hôpitaux. La différence, c'est qu'ici, elles ont toute une série d'avantages. Bouteina a même quitté son poste en maison de repos pour être engagée ici.
Bah, j'avoue que j'ai quand même flashé sur la voiture de fonction, hein, qui est quand même non négligeable. Quand on voit carte illimitée, essence, plus la voiture qu'on peut utiliser à usage privé également. Donc, ça n'a pas de prix.
Mais comment ces agences arrivent-elles à proposer un tel package ? C'est simple, avec la pénurie d'infirmières, elles se rendent incontournables pour les hôpitaux et facturent leurs services à prix d'or.
Ça varie entre 45 euros et 70 euros par heure.
J'ai fait le calcul. Pour embaucher une infirmière via cette agence, l'hôpital déboursera donc près de 10 000 euros par mois. C'est deux fois plus que si l'infirmière était engagée directement par l'hôpital. La directrice des ventes, Tine Van Hout, l'avoue, c'est un marché lucratif.
C'est une opportunité aussi pour des sociétés comme la vôtre.
Oui, je pense, oui, oui. C'est un business, comme vous avez dit, hein.
La poule aux œufs d'or, quoi.
Oui.
Bref, la pénurie fait des heureux. Mais quelque chose me turlupine. Comment cette agence trouve-t-elle ses infirmières ? Un recruteur, Monder Kramessi, va tout m'expliquer.
On recrute aussi les gens qui travaillent déjà autre part, qui travaillent dans les hôpitaux, des maisons de repos, et qui ne sont pas contents chez eux. Et c'est comme ça qu'on essaye de les embaucher en faisant laisser voir c'est quoi les valeurs du bureau Nexus.
Des valeurs particulières. Je comprends texto que pour embaucher, il suffit d'aller chasser des têtes dans les hôpitaux eux-mêmes. Mais l'agence me précise.
Il y a une règle générale qu'on ne dépasse jamais. Des hôpitaux qui sont clients chez nous, nous, on ne va jamais recruter chez eux.
Ce serait un comble.
Donc ça, c'est vraiment une règle générale qu'on ne dépasse jamais. Mais s'ils ne sont pas clients à nous, on regarde qui n'est pas content et on fait une première écoute et écouter ce qu'il y a sur le marché. Ça, c'est jamais mal, ça peut qu'enrichir une personne.
Une politique qui fait bondir certaines directions d'hôpitaux, à commencer par la directrice du département infirmier d'Erasme, Chantal Van Kutsem.
Si on commence à cautionner ce genre de choses, jusqu'où on va aller ? Si c'est si facile de venir travailler à l'hôpital en ayant en plus l'avantage en nature, mais et alors on fait comment pour empêcher les gens de partir ? Ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Je refuse de cautionner... des systèmes comme ça, où là, on est dans la vraie concurrence. Mais on ne parle pas de boîte de petits pois, hein, on parle de santé des gens, donc non, je ne rentre pas là-dedans, je ne veux pas rentrer là-dedans.
Au cours de mon enquête, je me rends compte que les infirmières sont quasiment devenues des marchandises qu'on achète, qu'on vend, et pas seulement en Belgique. Puisqu'il est si difficile d'en recruter ici, les hôpitaux vont voir ailleurs. Ils tentent d'attirer des infirmières étrangères, notamment au Liban. Depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, le pays manque de tout. Pénurie d'électricité, de médicaments, crise économique, les habitants sont au bord du gouffre. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. La Belgique surfe sur l'occasion pour venir recruter ici. Je décide de me rendre à l'ordre des infirmières libanaises pour savoir ce qu'en pense la directrice.
C'est scandaleux parce que je dis pourquoi ils ont choisi ce commerce inéthique. Tout le monde profite parce qu'ils savent que notre système s'écroule et malheureusement il y a des gens qui sont là, qui offrent de meilleures conditions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, c'est très scandaleux.
Je découvre qu'un tiers des infirmières ont déjà quitté le Liban, mais je veux en comprendre les conséquences. Alors, je franchis les portes de l'hôpital, le plus renommé de Beyrouth, hôpital Hôtel Dieu de France, le directeur me guide dans un labyrinthe de couloirs. Il me montre qu'il a été contraint de condamner une centaine de lits.
C'est les services qui sont fermés dû au départ d'infirmières, un départ plutôt massif de 133 infirmières sur 500. Donc on va rentrer dans tous ces services-là. Comme ça, vous allez voir que c'est du stand-by, c'est des services, voilà.
Je pénètre dans l'unité de réanimation pédiatrique. Normalement, c'est ici qu'on soigne les enfants, les bébés qui ont besoin de soins intensifs. Mais là, je découvre que les petits lits sont vides.
Ce départ d'infirmière a impacté pas mal de services, dont celui-là, qui était un service essentiel à l'hôpital, pas seulement à l'hôpital, au pays aussi. Donc aujourd'hui, les réanimations pédiatriques dans tous les hôpitaux commencent à disparaître.
À cause de ces lits fermés, on doit refuser des patients ?
C'est la conséquence directe. C'est la conséquence directe. On ne peut pas accueillir des gens qu'on ne peut pas soigner.
Donc cette pénurie d'infirmiers coûte des vies, en fait.
C'est normal. C'est normal qu'il y aura un impact quelque part. En hospitalisation, c'est des vies. En hospitalisation, c'est des vies.
C'est implacable à cause de l'exode des infirmières au Liban. Des enfants meurent.
C'est plus que dramatique, ça fait sentimentalement très mal au cœur. Et la situation du système de santé est grave et je dirais même catastrophique.
L'Organisation mondiale de la santé qualifie cet exode des cerveaux d'alarmant. Mais visiblement, pas de quoi freiner les hôpitaux belges. Je vais découvrir que pour engager ces infirmières libanaises, certains passent même par des agences douteuses qui arnaquent, qui menacent. L'une d'elles attire mon attention, International Nursing Network. Cette structure a déjà fait venir plus de 200 infirmières libanaises en Belgique. Un business florissant, puisque l'agence demande pas moins de 10 000 euros par infirmière recrutée à chaque hôpital. Au fil de mes recherches, je retrouve une infirmière libanaise arrivée en Belgique via cette agence. Elle me raconte comment elle a été escroquée. Rien que pour la procédure d'équivalence de diplôme, elle est contrainte de débourser des milliers d'euros.
Il m'a promis, on te fait l'équivalence, c'est la première étape à faire dès que tu l'as fait, et c'est vrai que c'est l'étape essentielle. Et tu payes 2500. Je lui ai dit, mais c'est trop cher. Il m'a dit, oui, je sais, mais nous, on l'a fait rapidement. Pour moi, c'était énorme parce que je n'avais pas cette somme, quoi. J'étais étudiante, mes parents m'ont aidée, donc il y a les moyens. Mais il abuse de la naïveté de certains gens. Pas tout le monde peut payer 2500.
2500 euros pour une équivalence de diplôme qui en coûte en réalité 150.
Je trouve ça vraiment honteux et pour moi, c'est un peu du mafia.
Et ce n'est pas le seul abus que je découvre. Un autre infirmier me dévoile les contrats que l'agence fait signer aux infirmiers. Ils imposent de...
Parler tout bas. Travailler avec l'établissement dans lequel le contrat a été signé pendant au moins 2 ans.
Sinon...
Le candidat s'engage à payer une amende non modifiable et non déductible d'un montant de 15 000 euros.
Et puis, une clause spécifique pour les femmes.
Pour les femmes mariées, ne pas tomber enceinte durant les 2 premières années de travail à l'hôpital.
Des clauses qui instaurent un véritable climat de peur.
Une de mes collègues, elle est venue vers moi en pleurs, en disant qu'elle cherche un docteur pour un avortement. Elle était stressée, elle était au bout de sa vie. Et pour elle, partir pour un avortement, c'est quelque chose de très très dur. Elle ne voulait pas le faire. Et en même temps, avoir une rupture de son contrat de travail et retourner dans son pays, c'était l'impossible.
L'agence est donc prête à imposer de telles clauses simplement pour plaire aux hôpitaux belges et leur assurer des infirmières qui ne seront jamais absentes.
Ils sont en train de faire leur intérêt sur les malheurs des autres. C'est de l'esclavage moderne. Et je dirais trafic des blouses blanches pour ne pas utiliser des gros mots comme esclavage.
Face à ces témoignages et ces preuves, je décide d'aller trouver le responsable de cette agence à Beyrouth. Je m'attendais à un bureau qui a pignon sur rue. Pas du tout. L'agence est difficile à trouver. À l'étage d'un immeuble résidentiel, à l'écart des grandes rues.
Venez, c'est pas un traquenard.
Me voici dans le bureau du directeur, Tony Dib. Il me cite d'abord fièrement les hôpitaux avec lesquels il collabore.
CHC.
Le CHC à Liège. Vous avez Bruckmann. Le Chirec.
Beaucoup, beaucoup d'hôpitaux.
Mais rapidement, je lui montre les contrats qu'il fait signer aux infirmiers, notamment la clause qui impose une amende exorbitante en cas de rupture du contrat.
Je sais que ce n'est peut-être pas juste de faire cela, mais ça n'a jamais choqué personne.
C'est une forme de pression.
Vous savez, si les gens viennent à l'hôpital pour travailler et puis qu'ils partent, comment mon business va-t-il perdurer ?
Dans les contrats, vous demandez aussi aux femmes de ne pas tomber enceinte pendant 2 ans.
Écoutez,
c'est illégal.
Vous connaissez cette liste ?
Okay.
Non, je comprends pourquoi vous êtes là. Vous essayez de m'avoir sur ces trucs. Si vous êtes enceinte, vous n'allez pas travailler pendant 1 an. Donc, ils vont vous payer alors que vous ne faites rien.
Vous savez qu'une femme a voulu avorter à cause de ça ?
Un avortement ?
Oui, à cause de ça.
Moi, je ne pense pas. Vraiment ? Moi, je ne crois pas.
Tony Deep se justifie en disant que c'est une demande des hôpitaux, mais quand on lui demande quels hôpitaux ?
Désolé. Ça, je ne peux pas dire.
Je vais alors aller les trouver moi-même. De retour en Belgique, je prends la route vers Liège, direction le CHC Montlégia. La clinique est flambant neuve. Je monte à l'étage de la direction des ressources humaines. J'ai rendez-vous avec Sakina Hildirim, la directrice. Elle nous confirme qu'elle fait appel à International Nursing Network. Est-ce que vous savez que cette agence demande aux infirmiers de payer pour venir en Belgique ?
Non, j'avoue, j'ignorais effectivement cette partie-là.
C'est vrai, ça ? Vous me le dites. Si
on a, par exemple, ici une petite facture. Donc ça, c'est le montant juste pour une équivalence de diplôme. Et vous voyez en haut, 2 300 $ qu'ils doivent payer en cash.
Eh oui.
Ça vous semble correct ?
Non, pas du tout. Je trouve que c'est pas très correct de demander une somme et au futur employeur et par ailleurs à des personnes qui sont déjà en difficulté.
Elle l'avoue, ce qui l'a attirée, c'est cette promesse faite par l'agence que les infirmières restent 2 ans minimum dans l'hôpital. Mais quand je lui révèle que pour y parvenir, la firme demande notamment aux femmes de ne pas tomber enceinte.
J'ai pas les mots là.
Est-ce que ça vous choque ?
Très. C'est très discriminant par rapport à la place de la femme dans la société. Là aussi, je pense qu'aujourd'hui, vous m'apprenez beaucoup de choses.
Quelques jours plus tard, je reçois cet email.
Le groupe santé CHC a décidé de ne pas collaborer avec cette agence libanaise. La confiance est rompue.
Je décide maintenant d'aller montrer ces contrats au Chirec, à Bruxelles.
Bonjour.
Je suis accueillie par le directeur général Philippe El Haddad et la directrice du département infirmier, Isabelle Cambier. Au départ, rien n'est très clair.
Vous faites appel à International Nursing Network ?
C'est pas eux, hein, quand même. Au Liban.
Je leur dis que je suis déjà au courant et leur montre les clauses problématiques. La première réaction m'étonne un petit peu.
Que le candidat s'engage à rester 2 ans dans l'établissement, je trouve que c'est une bonne chose pour nous.
Le Chirec exige cette durée de 2 ans, parce que avant, quand nous ne l'exigions pas, certains venaient 9 mois, 1 an, et donc c'était du temps de formation et d'apprentissage d'une langue à nos frais, mais sans investissement. Donc, les 2 ans, ça fait partie de nos exigences.
Maintenant, qu'il y ait une amende de 15 000 euros, ça...
Non, c'est-à-dire que c'est leur choix de signer ou de ne pas signer avec la firme de recrutement.
Mais venons-en à la dernière clause.
Une dernière clause qui interdit aux femmes d'être enceintes pendant 2 ans.
Hein ? Donc, voilà.
Exiger de quelqu'un de ne pas être enceinte, je trouve que... Quoi ?
C'est pas nous.
Non, on n'exige pas. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ça du tout. Je ne sais pas si toi, tu as connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance de ça du tout, non.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense qu'il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables.
Là aussi, quelques jours plus tard, le Chirac m'annoncera qu'il arrête sa collaboration avec cette firme. Mais ça n'en reste pas là. Suite à nos révélations, une enquête est ouverte par l'Auditorat du Travail de Bruxelles. La procédure est toujours en cours. Les hôpitaux concernés risquent jusqu'à 160 000 euros d'amende. Au bout de ces mois d'investigation, je me rends compte que le problème est vaste et qu'il a de nombreuses conséquences en cascade. Les patients sont les premières victimes. Les infirmières, elles, s'épuisent. Beaucoup quittent la profession. Certaines se retrouvent aussi, malgré elles, au cœur d'un business, parfois même d'un trafic de blouses blanches. Mais au fond, ces agences lucratives ne font que mettre des sparadraps sur une plaie ouverte. Tant qu'aucune mesure d'envergure n'est prise, le cercle vicieux continue. Je termine mon enquête avec cette question, au bout des lèvres. Qui nous soignera encore dans 10 ans?
Nous sommes de retour en studio en compagnie de nos invités. Yves Maul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef infirmier du département de médecine critique au CHU Bruckmann, également vice-président de l'Union Générale des Infirmiers de Belgique et puis chercheur doctorant à l'Université de Liège. Laurence Audy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière en chef en chirurgie cardiaque dans un grand hôpital universitaire bruxellois qui ne veut pas que nous citions ici son nom. Vous êtes également déléguée syndicale CNE. Merci d'être avec nous. Laurence Audy, vous êtes infirmière depuis 36 ans. Quel regard vous portez sur ce manque de personnel infirmier?
Et un grand regret par rapport à la capacité que j'avais il y a quelques années à exercer mon métier avec la passion que j'ai toujours pour ce métier. Et un grand regret de voir que cela devient de plus en plus difficile de pouvoir accompagner les gens avec humanité, de pouvoir exercer notre jugement clinique qui est très important. Aujourd'hui, les études infirmières, c'est 4 ans d'études. Ce n'est pas pour rien. Et donc, à partir du moment où on se retrouve à devoir gérer beaucoup plus de patients que ce que nous ne sommes capables de faire, eh bien, on passe à côté de surveillances qui sont essentielles. On se sent coupable. On se sent démuni par rapport à la souffrance des patients, puisqu'on doit passer de l'un à l'autre avec vitesse pour exécuter toutes les tâches. Donc, oui, je me souviens du rêve que c'était, entre guillemets, le début de mes années d'infirmière. Je sais que c'est toujours possible, mais il y a urgence que tous les ministres de la Santé et notre gouvernement prennent au sérieux le fait que, sans infirmières, qui sont la colonne vertébrale du système de santé en Belgique, on va droit à la catastrophe et nous sommes déjà très loin dans le processus.
Dans votre département, la chirurgie cardiaque, comment ça se passe aujourd'hui? Vous manquez aujourd'hui de personnel?
Alors aujourd'hui, non. Demain, oui. Je sais que demain, j'aurai des départs. Je ne sais rien y faire. Et pour le moment, pour ces 4 départs, par exemple, j'ai un recrutement au mois de septembre. Donc forcément, je sais qu'en septembre, ce sera plus difficile.
Yves Maul, cette pénurie, elle est générale. Tous les hôpitaux en Belgique sont concernés.
Oui, on n'est plus du tout dans une dynamique où il y en a de ceux qui tirent mieux leurs épingles du jeu. Je crois que c'est assez général sur l'ensemble de la Belgique. Pas que sur la Belgique. Si on regarde un tout petit peu en France ou en Hollande, que vous investiguez un petit peu du côté anglais, où c'est même d'ailleurs beaucoup plus dramatique qu'ici en Belgique. Le problème, c'est qu'on voit comment ça se passe dans d'autres pays et on se dit, merde, si on y arrive, on va vers ça, comment est-ce qu'on va faire pour garantir la sécurité des patients et la qualité des soins à l'avenir? Il y a aussi une question de sens pour nous.
Sophie Mergen, vous êtes journaliste, vous avez donc réalisé cette enquête pour Investigation. Le grand paradoxe, finalement, c'est que quand on regarde le nombre d'infirmiers autorisés à exercer en Belgique, sur papier, il n'y a pas de pénurie.
Oui, c'est bien ça tout le problème, parce que quand on regarde les chiffres, en fait, en Belgique, on a plus de 200 000 infirmiers qui sont autorisés à pratiquer. Donc, ça peut paraître énorme, mais en fait, il n'y en a que 60% qui sont réellement sur le terrain. Et donc, c'est ce gap qui crée vraiment ce sentiment de mal-être dans les hôpitaux aujourd'hui. C'est un gap qui s'explique par le fait que beaucoup d'infirmiers sont tombés en burn-out, que toute une série d'entre eux ont quitté la profession, que d'autres ont quitté la Belgique parce que les conditions peuvent parfois être plus avantageuses ailleurs. Il faut dire aussi que tous ces départs interviennent dans un contexte où la durée de séjour à l'hôpital est de plus en plus réduite et donc il y a une intensification des soins infirmiers puisqu'on n'a presque plus que des cas aigus. Et donc ça veut dire que la charge de travail augmente. Plus la charge de travail augmente, plus il y a des départs et plus il y a des départs, plus cette charge de travail augmente encore pour le personnel restant et donc on est vraiment dans une forme de cercle vicieux.
Laurence Audy, vous partagez, en tant qu'infirmière, vous partagez cette analyse?
Oui, absolument. Ce qui nous frustre aussi, c'est que pour pouvoir faire tourner la machine et parce qu'il faut qu'on puisse avoir de la place pour les patients suivants, etc., on est amené à faire sortir des patients pour lesquels on est inquiet parce qu'ils sont encore fort fragiles. Et les soins à domicile, c'est pas beaucoup mieux. Les généralistes, ils sont pas très disponibles. Les infirmières à domicile, il y en a pas beaucoup non plus. Enfin, c'est un système, pour le moment, qui est en train de tourner fou et il est temps de repenser dans sa structure complète.
Alors justement, pour éviter les accidents, les catastrophes, qu'est-ce qu'on fait, Yves Maule, dans les hôpitaux? On ferme des lits?
Alors, on s'adapte à la situation. Dans certains cas, c'est fermer des lits. Dans certains cas, c'est supprimer des filières de soins. On est obligé de restreindre certains profils, de restreindre certains types de lits, de postposer certains soins. Donc, on n'en est pas encore là de manière, je vais dire, chronique. Mais à certains moments, quand on bloque un peu en termes de lits de soins intensifs et que vous avez plusieurs interventions où les patients nécessitent des lits de soins intensifs après, c'est un petit peu struggle for life. Hein. On va regarder un petit peu qui peut sortir, qui peut pas sortir. Donc, autant il y a quelques années, on n'en était pas dans des dynamiques comme ça, autant c'est quelque chose qui est vécu au quotidien maintenant par les équipes, ce qui augmente encore notre pénibilité, parce que quand vous passez du temps à gérer ce flux de patients et à dealer avec les patients, parce que c'est vraiment ça, hein, vous rentrez plus tôt, comment est-ce qu'on fait votre suivi, sachant qu'il n'y a pas de structure adaptée non plus, hein, le suivi des patients à domicile. Il y a toujours cette barrière entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe à domicile. Si on regarde un peu l'état de la première ligne, les médecins généralistes se plaignent aussi de la situation. Les infirmières en soins à domicile disent « on n'en peut plus ». Donc il y a pas, parce qu'on est très focus sur l'hôpital aujourd'hui, mais c'est de manière assez générale. Hein. Et donc en fait, tous ces secteurs qui s'auto, je vais dire, complémentaient à un moment donné, n'arrivent plus. Et donc, on se retrouve effectivement à certains moments à coincer.
Est-ce que du coup, ça signifie qu'en tant que soignant en Belgique, on est obligé de faire des choix? Est-ce que finalement, les soignants ne sont pas devenus un peu maltraitants, malgré eux?
Parfois, en étant même pas conscient. Quand j'explique qu'une infirmière de nuit qui a 25 patients sous sa responsabilité, dont parfois des patients qui auraient dû être aux soins et qui n'y sont pas parce qu'il y a des lits fermés et autres, mais faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse un sourire. Si elle voit un patient qui pleure, elle va passer de sonnette en sonnette, de geste à faire, de médicaments administrés, et donc bien sûr que c'est perçu comme maltraitant pour un patient. Et alors, il y a des patients qui vont être très exigeants et d'autres qui ne vont pas nous demander des soins qui sont nécessaires. Donc, ça arrive très souvent qu'on rentre dans la chambre d'un patient qui a un masque de douleur et on dit « Mais monsieur, ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, mais j'ai mal depuis 2 heures. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé ? Je vois que vous êtes trop occupé, j'ai pas envie de vous déranger. » Et ça fait mal au cœur. C'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. C'est pas pour ne pas être dans l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. C'est d'être à côté de la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, et d'accompagner mes patients correctement et de pouvoir éviter que je ne repère des signes quand il est trop tard, que je puisse alerter le médecin à temps parce que j'ai un bon jugement clinique, que j'ai étudié pour ça et que je peux exercer mon métier avec passion, avec raison, avec sens.
La norme, c'est normalement un infirmier ou une infirmière pour 8 patients, c'est ça?
Non, ça c'est ce que le CACI recommande, on n'y est pas. Hein.
C'est pas une norme, hein, c'est une recommandation. Hein. En Belgique, on a un gros problème avec les normes. Ce sont des normes qui ont été dictées dans les années 70-80 et qui ne sont plus du tout au goût du jour. Si je prends la norme de soins intensifs, hein, parce que c'est une que je connais bien, je la manipule tous les jours, c'est un infirmier pour 3 patients.
Mais, on respecte ça aujourd'hui?
C'est le minimum qu'on va respecter, mais avec ça, vous n'êtes pas capable de prendre en charge. Vous avez un patient qui est sous oxygénation extracorporelle, avec du matériel très lourd, qui est vraiment très dépendant de... Là, il faut un infirmier pour un patient, sinon il meurt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des solutions pour suppléer, en sous-traitant certaines fonctions de l'infirmier à des aides-soignants, par exemple. Donc, on essaie de s'adapter au quotidien. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est que personne ne revoit les normes parce que la lasagne institutionnelle fait que c'est très compliqué de les revoir. Parce que les normes dépendent en partie du fédéral, mises en pratique par le régional, qui finance, et ainsi de suite. Donc, on a déjà essayé de faire tout un travail sur les soins intensifs. Heureusement, il y a eu plusieurs recommandations maintenant et je pense que ça risque probablement d'aboutir à un moment donné. Mais en termes de lits soins traditionnels, enfin unité de soins classique, c'est clair que les recommandations, on n'est même pas du tout. Hein. Donc ça, c'est clair. Et les urgences, je vais dire, moi, mon deuxième cheval de bataille, c'est les urgences. Vous avez certains pays qui sont très investis, vous allez en Ontario, au Texas, ils ont coulé ça dans la loi, c'est un infirmier pour 4 patients couchés aux urgences. Venez dans nos services d'urgence. C'est fort variable. Dans les moments d'affluence, on peut être un infirmier pour 10 patients.
Alors, une solution, c'est de recruter à l'étranger. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, dans notre enquête, Sophie. Est-ce qu'on a des chiffres de ce nombre d'infirmiers qui viennent de l'étranger dans le personnel en Belgique?
Alors, on n'a malheureusement pas de chiffres récents, mais ce qu'on sait, c'est qu'entre 2004 et 2018, on est passé de 5% d'infirmiers étrangers à 13% au sein de nos hôpitaux. Donc, ce chiffre a presque triplé. Et on peut présupposer qu'avec la pandémie et cette pénurie aggravée, ce chiffre a encore augmenté.
Il y a eu des conséquences après notre enquête, où on a notamment pointé cette filière de recrutement au Liban, avec des conditions d'emploi problématiques, même parfois des clauses abusives dans certains contrats. Qu'est-ce que ça a eu comme suite?
Alors, depuis notre enquête, on l'a entendu dans le reportage, le CHC Montlégia et le CHIREC ont annoncé stopper leur collaboration avec l'agence libanaise. Mais surtout, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, suite à nos révélations, l'inspection de l'emploi a mené une enquête et c'est à Bruxelles que des infractions ont été constatées. Tant l'agence que les hôpitaux concernés n'ont pas respecté la réglementation en matière de placement de travailleurs. Et donc, ces hôpitaux risquent jusqu'à 160 000 euros d'amende. Mais l'enquête est toujours en cours. Elle est menée par l'auditorat du travail de Bruxelles. Et les policiers sont encore en train d'interroger toute une série d'acteurs concernés.
Yves Moll, le CHU Bruckmann a aussi eu recours à cette filière libanaise. On n'a pas d'autre solution, finalement, pour remplir le cadre que d'aller chercher du personnel à l'étranger?
Au moment même où on a pris ces décisions, non. Un des axes de recrutement était effectivement les filières d'abord européennes. Et donc, il y a l'infirmier est euro-compétent, donc ça veut dire qu'il a le droit de se déplacer comme tous les autres professionnels dans la zone européenne pour le travail. C'est vrai que on a pu recruter dans différents endroits, comme notamment la Tunisie, mais aussi le Liban, parce que les infirmiers, notamment du Liban, qui proviennent du Liban, ont un niveau de formation très élevé. Et il y a certains partenariats entre les universités libanaises et certaines universités belges, ce qui veut dire que les cursus sont parfois harmonisés. Maintenant, ça a ses limites. Ça veut dire que les gens qui viennent du Liban, pour eux, c'est un déchirement. Ça, on le voit bien sur le terrain. Abandonner sa famille pour venir s'établir en Belgique, changer complètement d'environnement professionnel, c'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Eux le vivaient très mal quand ils devaient quitter, donc nous on devait faire le suivi de ce mal-être qui était aussi présent. Aujourd'hui, ce type de recrutement a fortement diminué, pour les raisons que vous avez expliquées, puisqu'on n'était pas du tout au courant que ces pratiques étaient en cours, et donc notamment la firme INN dont vous parlez dans votre enquête ne travaille plus du tout pour nous depuis quasiment le début des remous qu'il y a eu. Ça nous arrive encore de recruter des Libanais, mais c'est souvent par des filières libre alors, parce que ils s'auto-alimentent, comme ils sont ici, ils ont des amis, donc qui postulent dans les hôpitaux ici, en même temps on les accompagne pour faire les procédures de reconnaissance de diplôme, donc les filières ne sont plus du tout les mêmes. Insérer des gens qui proviennent de l'extérieur de l'hôpital avec une formation complètement différente et une philosophie complètement différente, ça a ses limites en termes de soi sur le terrain.
Laurence Audy, est-ce qu'il y a finalement une concurrence entre les hôpitaux pour recruter, pour attirer des infirmiers, des infirmières, une concurrence qui serait parfois malsaine?
Il y a de la concurrence, pas seulement entre les hôpitaux, j'ai envie de dire même au sein de l'hôpital, il peut y avoir une concurrence.
Entre services,
puisqu'en fonction que vous travaillez dans un service plus ou moins intensif, reconnu, vous avez un barème différent. Il y a des concurrences avec les soins à domicile, avec les maisons médicales, certaines donnent les fixes pour pouvoir attirer du personnel. Vous avez des agences d'intérim qui ont offert des voitures aux intérimaires qui venaient travailler. Donc il y a une concurrence qui est malsaine, oui, parce que quand on rentre dans un métier qui devient en pénurie, ce qui est rare est précieux et on rentre dans la loi du plus offrant. Malheureusement, ce n'est pas toujours au bénéfice des patients, forcément.
Alors Sophie Merguen, donc journaliste à Investigation, quelles sont les mesures qui sont aujourd'hui sur la table pour lutter contre ce phénomène de pénurie? Qu'est-ce qui a été proposé par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke?
Alors ce qui est en train d'être mis en place pour soulager les infirmiers, c'est une nouvelle fonction, une fonction d'assistant infirmier. Donc c'est une personne qui est entre l'aide-soignant et l'infirmier avec une formation en 2 ans plutôt que 4. On sait aussi que pour pallier l'urgence, les conditions favorables pour les infirmiers retraités sont prolongées jusqu'en octobre. Et puis on rappelle encore qu'à l'époque du Covid, le fonds Blouse Blanche avait été mis en place pour aider financièrement les hôpitaux à recruter du personnel. Mais le problème, c'est que quand il n'y a personne sur le marché, on a beau avoir de l'argent, on ne sait pas embaucher. Et donc, résultat, cet argent a parfois été utilisé plutôt pour acheter du matériel, ce qui ne règle pas le problème. Les syndicats, eux, demandent avec insistance un vrai plan d'attractivité, un plan pluriannuel. Mais toute la question, c'est est-ce que ce plan va voir le jour avant les élections ou est-ce que ça va encore être reporté à la prochaine législature ?
Votre réaction, Yves Moll, entend aussi que vice-président de l'Union des infirmiers de Belgique, est-ce qu'il y a des bonnes solutions sur la table?
Et donc une partie du plan d'attractivité qui a été développé par le ministre Ben, nous y avons collaboré, donc il n'a pas été chercher ça tout seul. Donc il a demandé au syndicat de se réunir avec les associations professionnelles et de proposer une série de solutions. Par contre, nous avions demandé un certain nombre de choses comme la clarification du rôle de l'infirmier, le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule filière infirmière. Et ça, il faut avouer que le choix qui a été fait aujourd'hui peut être aussi utilisé pour diminuer la qualification du personnel qui est au chevet du patient. Et ça, évidemment, on n'est pas pour du tout.
Le fait qu'il y ait des nouvelles fonctions
Si vous dites aujourd'hui, ok, on va mettre à la place de mettre un infirmier au chevet du patient, on va mettre un aide à infirmier et que on le forme qu'en 2 ans, ben, nous en tant qu'infirmiers, on dit ok, non, on n'est pas d'accord avec ça parce que ça va encore augmenter la pression sur le peu d'infirmiers qui restent puisqu'ils sont co-responsables de l'activité au chevet du patient. Et donc résultat des courses, ce fractionnement de l'environnement de formation fait que en termes de d'attractivité, c'est aussi problématique parce que derrière tout ça, il y a aussi eu la réforme de l'IFIC dont Laurence a parlé, où on a décidé qu'on payerait non plus les gens à leur niveau de formation, mais à ce qu'ils font au quotidien. Et donc, sur le terrain, on arrive à des trucs complètement aberrants, où des gens qui n'ont pas suivi des cursus de formation spécialisés, qui travaillent dans des environnements spécialisés, sont payés comme infirmiers spécialisés. Donc, les spécialisés disent « Mais attends, bah pourquoi est-ce que moi, je dois aller me former un an plus ?» On rappelle que la formation d'infirmiers spécialisés, c'est 4 ans de bac plus une année de spécialisation, hein, donc c'est 5 ans. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que je dois aller travailler et sacrifier une année de salaire pour finalement être payé comme quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, cette réforme qui, je pense, est nécessaire, et ce plan d'attractivité dans lequel il y a de très bonnes choses, notre problème, c'est qu'il n'est pas décliné de manière cohérente sur le terrain à cause de la lasagne institutionnelle et que chaque personne prend ce qui l'intéresse dans ce plan d'attractivité et le remet à sa propre sauce. Ça dévoie parfois l'objectif même du plan d'attractivité.
Laurence, dit pour vous, la solution, c'est quoi ?
Je voudrais d'abord revenir sur le point précédent. Moi, je me demande depuis 10 ans si au final, on n'est pas en train de créer une situation voulue, à savoir diminuer la qualification du personnel en place. Les études qualité démontrent que si on veut moins de morbidité patient, si on veut une meilleure qualité patient, il faut plus de qualifiés au chevet du patient. On est en train de construire exactement le contraire. Ce que nous ne voulons pas en tant qu'infirmière. Moi, je veux avoir un nombre de patients limité. Il faut revoir les normes d'encadrement. Et donc, on est en train de créer des conditions de désespoir qui font qu'on n'aura pas d'autre choix que d'accepter d'avoir encore une strate en plus au chevet des patients et d'encore moins contrôler ce qui se passe. Bon, ça va résoudre sans doute des problèmes de budget en termes de pension et autres, mais je ne suis pas sûre que c'est ce que la société veut. Et alors, par rapport à votre question, la première chose, c'est de donner une pleine attention aux étudiants qui viennent en stage chez nous, qui choisissent ces études. J'ai envie de dire que je suis passionnée par ce métier, il est plein de riches choses, mais il faut pouvoir donner l'occasion de l'exercer correctement. Et donc, on a de grands défis par rapport à ces étudiants. Aujourd'hui, l'encadrement en stage de ces étudiants, on compte de plus en plus sur les équipes de terrain. Or, on vient de vous expliquer les conditions de celles-ci. Elles doivent déjà s'occuper des intérimaires et de toutes les personnes à qui elles doivent déléguer des soins. Elles ne vont pas s'occuper bien des étudiants. Donc aujourd'hui, on doit mettre du budget pour l'encadrement des étudiants en stage si on veut qu'ils n'abandonnent pas leurs études après 1 an, 2 ans et qu'ils ne sortent pas complètement cassés de ça. Les étudiants réclament aussi beaucoup qu'on leur paye leur tenue de travail, des heures de repas. Ils ont des frais de parking parfois à prendre, des frais de transport pour aller en stage et tout ça. Bon, en France, les stages sont rémunérés, en Belgique pas du tout. Aujourd'hui, quand on est en 3e, 4e, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à quelque chose puisqu'on a augmenté les études, mais ça c'est un autre débat. Je pense qu'il faut énormément travailler le sens.
Brièvement, pour terminer, Yves Maule, selon vous, il faut redorer aussi l'image de ce métier qui souffre parfois d'un manque de reconnaissance.
Oui, la reconnaissance est quelque chose d'important. Je pense qu'on était tous contents quand on nous applaudissait à 20h pendant la phase Covid, hein, où on était confinés un peu, nous autres, à l'hôpital pendant que les gens étaient confinés chez eux. Ça a très rapidement changé. Aujourd'hui, je pense que la société en tant que telle, elle a une responsabilité dans la situation dont on est aujourd'hui. Hein. Donc, le fait que l'infirmier n'est pas représenté et défendu à sa juste valeur, je pense que nous, on ne sait pas descendre dans la rue, parce que si on descend dans la rue, ben, c'est nos patients qui meurent.
Et on commence à descendre dans la rue. Et ça, oui. Ça, c'est inquiétant.
Voilà. Et donc, je crois vraiment que l'ensemble de la société doit comprendre que ce n'est pas un bien luxueux, hein, que c'est quelque chose de basique et que le droit à la santé, c'est quelque chose d'important et qu'on est en train de le détricoter.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast et merci à vous qui nous écoutez.